Ouvrons le premier livre des Chroniques au chapitre 12 et au verset 32. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 23 d'abord. Verset 23. Si vous êtes ici depuis jeudi soir, certainement ce texte vous dira quelque chose, je pense. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Alors vient la liste de toutes les tribus d'Israël qui se sont rendues auprès de David à Hébron. Et puis, entre autres, nous lisons verset 32, « Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » Et je continue la lecture au verset 38. « Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron, en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issacar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs, des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des brebis en abondance, car Israël était dans la joie. Amen. C'est bien de terminer un texte par ce mot-là, la joie. Quand nous prenons un repas chez quelqu'un, à table, il y a souvent des personnes d'âge différent. Vous avez parfois un vieillard, un adulte, un jeune, voire un enfant, et devant le même repas, devant les mêmes aliments, chacun ne va pas manger de la même manière. Un petit enfant ne va pas manger autant qu'un adulte et peut-être même pas tout à fait la même chose. Alors, ce soir, il est possible que le repas soit assez copieux. Au moins, vous ne serez pas venu pour rien. Alors, chacun va prendre ce qu'il peut prendre. Il y aura des choses peut-être pour vous relativement simple. Il y a des choses peut-être, si vous découvrez la Bible, qui vont vous paraître difficiles à comprendre. Ne vous inquiétez pas pour ça, ça viendra au fur et à mesure. Chacun prendra ce qu'il pourra. Vous êtes d'accord pour ce programme-là ?
Amen.
Amen. Un petit résumé de ce que nous avons dit dans nos réunions précédentes. Le thème de cette mission, c'est la nécessité de recevoir de la part du Seigneur le discernement pour les temps. Il faut connaître le discernement pour les temps afin de connaître ce que nous devons faire et être pour le Seigneur. Et cela pour les raisons que nous avons déjà évoquées dans nos réunions précédentes et sur lesquelles je ne prendrai pas le temps de revenir ce soir. Il faut, au fond, être à l'heure de Dieu. Il faut être dans le temps de Dieu, avoir l'intelligence des temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous comporter n'importe comment. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu, la volonté de Dieu à notre égard dans l'époque où nous sommes. Je vais vous prendre un exemple. si votre montre s'arrête ou retarde, vous risquez de manquer un rendez-vous. Si vous avez un train à prendre, vous risquez de le manquer. Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans le temps exact. C'est aussi simple que ça. Si dans mon cœur, ma montre spirituelle, vous comprenez ce que je veux dire, s'arrête ou retarde, pour de multiples raisons que vous connaissez mieux que moi, vous savez ce qui se passe dans votre vie, nous risquons de manquer la volonté de Dieu. Ça, c'est pire qu'un rendez-vous ou un train. Et nous risquons d'être tout à fait en dehors du plan de Dieu. C'est pourquoi ce que nous méditons dans cette mission n'est pas peu de choses. Connaître le discernement pour les temps, pour connaître ce que nous devons faire. Maintenant, écoutez-moi bien. Suivant l'endroit où se trouvent les gens sur notre planète, ils ne vont pas être tous à la même heure. Tandis que nous sommes ici à Montpellier, à l'autre bout de la planète, d'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour tenir parce qu'ils ont la tête en bas. À l'autre bout de la planète, c'est pas la même heure. Et pourtant, c'est le même moment. Vous êtes bien d'accord? On est en train de vivre le même instant. Mais ce n'est pas la même heure. Et pourquoi ce n'est pas la même heure? Tout dépend de la position par rapport au soleil et à la lumière. Et on appelle ça un décalage horaire. Ce qui fait que, quand nous sommes au même moment, mais que ce n'est pas la même heure, certains dorment. Il y en a qui commencent à hocher la tête parce qu'ils vont plus vite que ma parole. Certains dorment pendant que d'autres veillent. Certains dorment pendant que d'autres travaillent. Et je le répète, pourtant, ils vivent au même instant. Position par rapport au soleil. Mais nous, chrétiens, spirituellement, nous savons ce que ça veut dire. Jésus, nous dit la Bible, est notre soleil de justice. Et il est certain que, en ce qui concerne les temps, puisque nous parlons bien de cela, tout dépend de ma relation avec Christ. Si je suis effectivement dans une relation correcte avec Jésus, je vais être à l'heure de Dieu. Je vais avoir l'intelligence des temps. Et l'apôtre Paul a écrit quelque chose là-dessus, ne cherchez pas, dans la première épître aux Thessaloniciens, justement en rapport avec le retour de Jésus. Pour ce qui est des temps et des moments, écrit-il, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, alors que nous vivons ce même samedi 9, septembre 2017, alors que nous sommes sur la même planète et que nous sommes au même instant, sur le plan spirituel, des gens vivent dans la nuit, dans les ténèbres du péché, des passions, de la corruption, sous la domination du diable, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais par la grâce de Dieu, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes du jour.
Amen.
C'est la même époque, c'est le même mois, c'est la même année, c'est le même jour. Mais nous ne vivons pas de la même manière, nous sommes du jour à cause de Jésus qui a changé nos vies, à cause de notre relation avec Christ. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, si on est du jour, Paul ajoute, ne dormons donc point comme les autres. Que le monde dorme, qu'il ne se doute de rien, comme nous le disions hier, qu'il soit dans le brouillard complet, dans l'indifférence, dans l'incrédulité, c'est son affaire. Mais l'Église ne peut pas s'offrir ce luxe-là. L'Église, elle ne peut pas dormir. Il faut donc qu'elle soit en éveil permanent. Et si elle n'est pas en état d'éveil, et ça va être mon message aussi, alors il faut un réveil. Parce que nous ne pouvons pas dormir. Nous sommes du jour. Et Paul ajoute, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Je vais prendre mon temps ce soir. J'aimerais lire, ne cherchez pas, un texte assez long dans le livre de l'Ecclésiaste. Voilà ce que l'auteur sacré écrit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quand je lis attentivement ce texte, je me dis, l'Église a vraiment besoin de l'intelligence des temps. S'il y a effectivement un temps pour ceci et un temps pour cela, quand c'est le temps de se réjouir, pourquoi est-ce que je vais pleurer? Quand c'est le temps où je devrais jeter des choses hors de ma vie parce qu'elles ne sont pas bonnes, c'est pas le temps de garder. Vous comprenez tout ça? Il faut donc que nous ayons, par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu dans notre cœur, l'intelligence des temps pour être à l'heure de Dieu. D'où la nécessité d'être dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, à l'heure de Dieu. Je vais encore vous lire un texte dans le premier livre de Samuel, ne cherchez pas. Saül, le mauvais roi, vient d'être rejeté. Et l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel pleure, et Dieu dit à Samuel, en quelque sorte, « Tu n'es pas dans le temps de Dieu, tu n'es pas dans mon temps. Samuel, il faut que tu entres dans l'intelligence des temps pour ta vie. Il était nécessaire que le prophète de Dieu triomphe de ses sentiments, de ses émotions, qu'il ne vive pas son ministère de prophète au niveau de son âme, mais au niveau de son esprit. Que ses pensées soient en harmonie avec les pensées de Dieu et qu'il sache ainsi ce qu'il devait faire. Ce n'était plus le temps de pleurer. Et je pose la question, mais pourquoi pleurer quand Dieu ne pleure pas? Pourquoi pleurer quand Dieu ne pleure plus? Il faut être à l'heure de Dieu. Et Dieu avait tourné une page, et il fallait que Samuel, en harmonie avec Dieu, tourne aussi cette page. Et le problème, voyez-vous, dans nos vies personnelles, dans la vie de nos foyers, dans la vie de nos églises, c'est que là-haut, Dieu a tourné une page parfois, et nous avons, nous, du mal à la tourner avec lui. Ce qui fait qu'à ce moment-là, nous sommes en décalage, nous ne sommes plus dans l'intelligence des temps. Ce n'était plus le temps de pleurer. Il fallait être à l'unisson des pensées, des sentiments et du plan de Dieu. Quelle était l'heure de Dieu maintenant? L'heure était à une nouvelle direction pour ce ministère de prophète. L'heure était à une nouvelle mission, je vous l'ai lu, à un changement de règne, à un changement de roi et à une nouvelle onction. Samuel, arrête! Tu es en train de bloquer ton ministère par un fardeau qui te pèse. Et si tu ne triomphes pas de ce fardeau qui pèse sur ton ministère, tu ne vas pas avancer. Samuel, arrête avec ça. Dépose ce fardeau-là au pied du Seigneur et termine avec ça. Parce que j'ai une nouvelle dimension, j'ai une nouvelle direction, j'ai une nouvelle mission à te confier. Arrête de pleurer et entre dans le plan de Dieu. Alors, ce soir, s'il y a un de mes frères dans le ministère qui connaît un tel fardeau que personne ne sait, mais qui l'a arrêté, qui le bloque, qui le ficelle et qui l'empêche d'aller plus loin dans la voie du Seigneur, je lui dis, mon frère, ce soir, entends cette parole de Dieu. Quand cesseras-tu de pleurer? Tourne la page, Dieu l'a déjà tournée là-haut, et il faut qu'elle soit tournée avec sa grâce sur la terre, et que tu sois à l'unisson de la pensée et du plan de Dieu. Bien, ça c'est le hors-d'œuvre. On va arriver au plat de consistance. Le couscous. Il y en a qui comprennent.
Amen.
Intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alors les tribus se rassemblent à Hébron, et puis il y a nos fils d'Issacar, les petits, qui arrivent avec 200 personnes, et quelques-uns avec eux. Et incontestablement, ces hommes vont, même si ce n'est pas écrit, mais ils vont influencer Israël, puisqu'ils ont l'intelligence des temps. Ils savent maintenant que c'est le moment de transférer, de détourner la royauté de Saül vers David. Ainsi, en ayant l'intelligence des temps, ils vont être capables de savoir ce qu'il faut faire et de savoir ce qu'il faut être. Alors je vais reprendre le texte que nous avons lu au départ et on va essayer de le décortiquer ensemble. Il est question au verset 38 de ceci. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre. J'en ai déjà parlé dans une réunion précédente, mais j'y reviens, parce que la Bible y revient. Ceux qui sont arrivés à Hébron pour transférer la royauté à David sont donc des hommes résolus. Ce sont des hommes déterminés, des hommes courageux, des hommes prêts à affronter les difficultés et les ennemis. Au temps des juges, Déborah a chanté ce cantique : « Mon cœur est au chef d'Israël, au peuple qui s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. » Elle dit aussi : « Des chefs se sont mis à la tête du peuple et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. » Et les chrétiens qui sont ici et qui connaissent bien la parole de Dieu vont se rappeler les nombreuses exhortations dans les épîtres, les lettres apostoliques qui nous exhortent à combattre. Nous avons besoin de l'intelligence des temps. Parce que cette grâce n'est pas pour les lâches, elle n'est pas pour les paresseux, mais elle est pour les chrétiens qui vont être, et vous comprenez ce que je veux dire, des gens de guerre, prêts à combattre pour le triomphe de Jésus-Christ, des gens armés pour la guerre, prêt à combattre. Le texte hébreu dit se rassemblant en rangée. Non seulement ils sont là, vaillants, ils sont là comme des gens de guerre, prêts à combattre, mais il y a une véritable communion entre eux. Il y a de l'ordre, il y a de la discipline. Paul exhortait l'église de Philippe à être d'un même sentiment, d'un même amour, d'une même âme, d'une même pensée. Il leur dit, il vous a été fait la grâce par rapport à l'évangile, non seulement de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Enfin, mon frère, ma sœur, on est tous bien placés pour savoir que la vie chrétienne, c'est une vie difficile. On ne va pas se leurrer. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des combats, mais le Seigneur est là pour nous aider. Nous devons être des gens de guerre, nous devons être des gens prêts à combattre, courageux, déterminés. Si j'ai l'intelligence des temps, si je sais que c'est l'heure de transférer la royauté à Christ, alors s'il y a cette intelligence des temps, je vais être un homme de guerre, prêt à combattre. Et je dirais, ce n'est pas facile, mais il y a un enjeu incontournable, il faut que Christ règne. Ils sont donc arrivés à Hébron, nous sommes toujours dans le verset 38, en sincérité de cœur. Et il est dit que tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. En sincérité de cœur. Le texte hébreu dit avec un cœur entier. C'est-à-dire que leur cœur était tout entier pour l'Éternel. Et nous savons bien ce qu'a été au cours de l'histoire biblique et au cours de l'histoire de l'Église, ce qu'a été la vie de ceux dont le cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Je parlais hier de ceux d'Israël qui clochaient des deux pieds, qui allaient d'une branche à l'autre. Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, ou on va haïr l'un et aimer l'autre, ou on va s'attacher à l'un et mépriser l'autre, mais on ne peut pas avoir deux maîtres dans sa vie. Dans notre cœur, il ne peut pas y avoir de cohabitation. Ça, c'est bon en politique. Mais c'est inconcevable sur le plan spirituel, mon cœur doit être tout entier à Jésus et il ne doit pas y avoir une parcelle de territoire dans ma vie pour le monde, le péché ou le diable. Parlant du diable, Jésus disait, il n'a rien en moi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si le diable avait quelque chose en toi? Ne serait-ce qu'une toute petite partie de territoire, dans une habitude, un péché secret, une pensée. Il faut arriver, être là à Hébron, pour oindre notre roi avec un cœur tout entier, en sincérité de cœur. L'intelligence des temps n'est pas pour les cœurs partagés. Si j'ai l'intelligence des temps, alors je vais dire, il faut que ma vie soit tout entière pour Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez intérêt parce que c'est moi qui ai raison. Enfin, c'est la Bible qui a raison. Bon, on va arriver au beefsteak, là, la véritable entrecôte. Bébé, s'abstenir. Parce que pour ne pas mettre une entrecôte dans un biberon. Verset 39. Ils furent là 3 jours avec David. Cette expression dans l'Écriture, je ne vais pas prendre le temps de la développer, vous me faites confiance. Cette expression dans l'Écriture est le symbole de la mort. Souvent dans les textes où vous voyez 3 jours, et on sait pourquoi, c'est le symbole de la mort. Ils allaient transférer la royauté à David. David allait régner. Mais avant cela, ou en même temps que ça, ils sont avec lui 3 jours. Symboliquement, c'est comme une mort. Et on ne règnera pas avec Christ si on ne meurt pas avec lui d'abord. L'intelligence des temps n'est pas pour ceux qui se préoccupent de leur moi, de leur confort, de leur gloire, de leur réussite personnelle, de leurs honneurs, de leurs ambitions, qui font cas de leur vie. Si j'ai l'intelligence des temps, la parole de Dieu va m'instruire et le Saint-Esprit va me convaincre que pour régner avec lui, il faut que je sois 3 jours avec lui dans la mort. Et quand je dis 3 jours, ce n'est pas 3 fois 24 heures, vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'au fond, si tu as bien compris l'Évangile, on ne se convertit pas et on ne se fait pas baptiser pour que la vie soit facile. Il y a un contrat. Si quelqu'un veut venir après moi,
oui, amen.
Qu'il renonce à lui-même. C'est facile à dire, c'est facile à chanter, mais quand vous allez à l'école de Dieu, que vous passez à la moulinette et que vous êtes broyé pour n'être plus rien, c'est autre chose. Qu'il renonce à lui-même. 2. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Quand à Jérusalem, on voyait quelqu'un passer dans la rue avec une croix, on savait que quelques instants après, c'était un mort. Porter sa croix, ma sœur, c'est pas ta maladie. Porter ta croix, mon frère, ce ne sont pas tes soucis. Porter ta croix, c'est accepter de mourir, pas physiquement, mais de mourir avec Jésus, pour Jésus. Tu meurs à ta chair, tu meurs à tout ce qui est mauvais, tu meurs à ton orgueil, tu meurs à tes ambitions, tu meurs à tout ça, pour n'être plus rien, afin que lui soit tout. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. L'apôtre Paul a envoyé une lettre à son candidat, Timothée, pour lui dire « Si nous souffrons avec lui, alors nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Dans le ministère de Jésus et dans le plan messianique de Jésus, il n'y a jamais eu le trône avant la croix. La première couronne, ce n'est pas celle qui est sertie de diamants, c'est la couronne d'épines. Le premier manteau, ce n'est pas le manteau royal, c'est la tunique déchirée et souillée de sang. Le premier trône, c'est pas le trône glorieux, céleste, devant lequel des milliards d'anges se courbent pour adorer l'agneau. C'est une croix. Il n'y a pas dans la vie de Jésus le trône avant la croix. Il a méprisé l'ignominie et il a vécu son ministère en vue de la joie qui allait lui être réservée. Mais Jésus a accepté le chemin de la croix avant le trône. Nous avons besoin de considérer tout cela très attentivement. Les apôtres ont demandé à Jésus, nous avons tout quitté. Il faut le dire, ça. Et il l'avait fait. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'il en sera de nous? Et Jésus a dit, mais au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera là, dans sa gloire, assis sur son trône, vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais avant d'être assis sur le trône avec lui, il faut d'abord tout quitter. Il faut être 3 jours. Il faut vivre ces 3 jours de la mort. Je voudrais vous dire ceci, et je me le dis à moi-même parce que je me mets dans le même panier que vous. Je ne suis pas venu pour vous donner des leçons. Qui suis-je pour vous donner des leçons? Nous sommes tous devant la même parole. Mais il n'y aura jamais de trône pour Balière s'il n'y a pas la croix où on lâche tout. Je ne parle pas du salut. Je parle ici de cette capacité, comme dit l'apôtre Paul, de régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ma sœur, il n'y aura pas de vrai règne dans ta vie s'il n'y a pas d'abord les 3 jours à Hébron dans la présence de ton David divin. Alors je sais que je suis en train de vous servir un évangile qui n'est pas l'évangile de la prospérité, de la danse et du folklore, mais c'est l'évangile.
Amen, amen.
Parce qu'il n'y en a qu'un.
Alléluia.
C'est l'évangile. Une église ne peut pas régner s'il n'est pas constitué de gens qui sont 3 jours avec David à Hébron, c'est-à-dire de gens qui meurent à tout ce qui est en eux et qui s'offrent totalement à Christ. Et tout s'enchaîne. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. C'est bien quand des frères nous préparent des vivres. Oui, chacun a sa part. Cela dit, pendant ces 3 jours, ils ont mangé et bu. Ne pensez surtout pas là à des orgies, à des choses inconvenables. Non, non, ils étaient dans la présence du futur roi. C'était une question d'heure. Et ils étaient là, mangeant et buvant. Ils étaient dans la compagnie du roi et ils mangeaient et buvaient. Si je meurs, si je connais ces 3 jours, je vais avoir faim et je vais avoir soif. Parce qu'à partir du moment où tu meurs à tout ce qui pouvait sembler être quelque chose qui comble ta vie, et que tu meurs à tout ça, va y avoir un vide. Mais un vide divin, un vide glorieux, qui va t'amener à dire « j'ai besoin de manger » et « j'ai besoin de boire » en sa présence.
Alléluia.
J'ai besoin de me nourrir en sa présence. Est-ce que ce n'est pas l'appel de Christ à la Odyssée? Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Amen.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce n'est pas le petit déjeuner, nous ne sommes pas au matin de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas le déjeuner, nous ne sommes pas au midi de l'histoire de l'Église. Jésus dit, je souperai, c'est la fin. C'est la fin. Nous touchons la fin. Et alors ce qui m'étonne, c'est que le Seigneur au début s'adresse à l'Église, à la Odyssée, une Église locale. Et à la fin, il ne se fait aucune illusion. Il aurait pu dire, je me tiens à la porte et je frappe, entendez ma voix, et vous tous l'Église, ouvrez. Non, 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 c'est la fin. Et c'est tellement la fin que ça va être chacun pour soi.
Oui.
Seigneur, je veux bien avancer, mais que le pasteur commence par faire des progrès. Ce n'est pas ton problème.
Oui.
Seigneur, je veux bien faire des progrès, mais que mon mari change un peu à la maison. Ce n'est pas ton affaire. Ah Seigneur, je veux bien avancer un petit peu, mais que mes parents montrent l'exemple. Si quelqu'un, je ne sais pas si vous le saviez, mais votre nom est dans la Bible. Vous le saviez ça? Le nom de chacun de nous est dans la Bible. Nous sommes monsieur quelqu'un. Nous sommes mademoiselle quelqu'un, parce que quelqu'un c'est toi, c'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Il t'attend. Il faut que tu lui transfères la royauté. Pour que tu sois là 3 jours, que tu meurs. Et alors si tu meurs, tu vas dire, mais j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de me fortifier en sa présence. Et ça, vous savez quoi, je vais aller plus loin. Nous devons nous nourrir de lui.
Amen.
Et c'est pour ça que je disais que c'est de l'entrecôte. Nous arrivons là à quelque chose d'extrêmement solide. Et je pense que vous, les chrétiens, vous allez me comprendre. Nous avons besoin de manger Jésus.
Alléluia.
Il est trop à l'extérieur de ta vie. De temps en temps, il peut te parler. Tu as mis son sang sur les poteaux et le lintel de la porte de ton cœur. Mais est-ce que tu le manges? C'est-à-dire, est-ce que Jésus est au fond de ton être? Et comme tu es mort, est-ce que c'est lui et lui seul qui va te faire vivre? Vous savez pourquoi vous ne vivrez pas après cette mission? Vous ne vivrez pas si vous êtes venu écouter Balière. Si vous êtes venu écouter Balière, c'est une catastrophe. Je le dis, c'est une catastrophe. Et nous multiplions nos missions parfois parce que nous venons écouter un bonhomme. C'en est assez de tout ça. Nous avons besoin de nous nourrir de Christ.
Amen.
Je ne suis pas en train de vous dire que nous n'avons pas besoin des ministères. Bien sûr que nous avons besoin des ministères. Je ne suis pas en train de vous dire que la prédication des hommes de Dieu ne sert à rien. Ils sont des dons à l'Église. Mais il faut que j'aille plus loin que ça.
Amen.
Derrière le bonhomme qui va partir, c'est Christ dont j'ai besoin. Ils étaient là, mangeant et buvant. Mais ce qui n'est pas possible dans l'Ancien Testament avec David, l'est avec Christ. Je peux me nourrir de lui. Je dois me nourrir de lui.
Amen.
C'est lui ma vie. C'est pas un peu de ma vie, un à côté de ma vie, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est ma vie, il n'y a que lui, Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Il le disait sur le plan physique, et moi je vous dis, Christ est ma vie, et les trois jours sont un gain. Alors voilà ce que Jésus a dit. Oh là là, ça a choqué du monde. À partir de cette mission-là, il y en a qui ne sont plus jamais venus.
C'est vrai.
Je suis le pain de vie. Il n'a pas dit « je vous apporte le pain ». Il a dit « je suis le pain de vie ». Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger ? Ils prenaient les choses au sens littéral. Alors Jésus va leur expliquer. En vérité, je vous le dis, et on a tort de lire ce texte à la Sainte Cène, hein, ça n'a rien à voir avec la Sainte Cène, ça. Rien. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Il faut être dans les trois jours et se nourrir de lui. Parce que c'est à ce prix-là qu'on va ressusciter. Parce qu'après les trois jours, après nous nourrir de lui, nous allons vivre et régner avec lui. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Manger sa chair et boire son sang a évidemment quelque chose en rapport avec sa mort. Il n'est pas question d'essayer de manger physiquement le Christ. Il n'est pas dans le pain, pas plus qu'il n'est dans l'hostie, n'en déplaise au prêtre. Le Christ est sur son trône, là-haut dans le ciel. Quand nous prenons la Sainte Cène, c'est une parenthèse, nous ne mangeons pas le Christ. Nous ne sommes pas des christophages. Le pain reste du pain et le vin reste du vin. La Sainte Cène est un mémorial. Je ferme la parenthèse. Quand il est question, dans l'enseignement de Jésus ici, de manger sa chair et de boire son sang, nous acceptons le Christ crucifié en nous. Nous désirons être une même plante avec lui, comme dit Paul dans Romains 6, dans sa mort. Je vais me nourrir de Christ dans l'Évangile, découvrir ses pensées, découvrir ses sentiments, découvrir sa pureté, son amour, sa miséricorde. Je vais découvrir tout cela. Et je vais dire, il faut que par la grâce de Dieu, je vive Jésus. Il faut que Jésus vive en moi. Il faut que je me nourrisse de la chair et du sang de Jésus. Que je sois uni avec lui dans sa mort. Je vais le dire de cette façon-là et je pense que vous me comprendrez. Il est question de manger la mort de Jésus. Il faut que Christ crucifié soit là dans nos entrailles et que la mort de Jésus nous imprègne comme l'agneau de Pâques rôti au feu descendait dans les entrailles des Israélites. Il n'y avait pas que le sang sur les poteaux et le linteau. L'agneau rôti était mangé. Et l'agneau rôti, ce n'est pas l'agneau vivant, c'est l'agneau sacrifié qui passe par le feu. Et cet agneau-là devait descendre dans les entrailles de l'Israélite. Et on mangeait la Pâque, le bâton à la main, les reins saints, les souliers aux pieds, c'est-à-dire dans une attitude de marche. Ce qui va te faire marcher, ce qui va te faire avancer, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est de manger la chair et de boire le sang de Jésus. Mangeant et buvant. Mais je reviens à la Sainte Cène, qui est un symbole de la mort. Jésus dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le peu de vin qu'il y a dans nos coupes est le symbole du sang versé sur la croix. C'est le vin de la mort. Mais quand Jésus dit qu'il va en boire du nouveau avec nous dans le royaume, ce n'est plus le vin de la Sainte Cène. Ce n'est plus le vin de la mort. C'est le vin du règne. C'est le vin de la vie et de la vie éternelle. On ne parle plus de la terre, de Golgotha et du calvaire. On parle du lieu très saint où il y a notre souverain sacrificateur. Tu veux boire avec lui le vin du règne? Alors il faut que tu manges et boives avec lui le vin de la mort à Hébron pendant 3 jours. C'est le programme de Dieu pour ta vie et il n'y en a pas d'autre. Vous me supportez encore quelques instants? Enfin, quelques heures? Non mais ça c'est formidable ça. C'est pas moi qui est formidable, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11, parce que c'est un chapitre qui est dans la même période, là, on touche le même événement. Il y a quelques compléments, là. 1 Chronique, chapitre 11, pardonnez-moi. Vous allez voir dès la première ligne du verset que c'est le même temps, là, le même événement. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os, et ta chair. » L'intelligence des temps, c'est pour les gens qui sont les os et la chair de Jésus. C'est-à-dire, je ne comprends pas bien. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs. Et où on fait l'équilibre. Je reviens au jardin d'Éden. Il y a le premier Adam, seul. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Dieu a la solution. Il fait tomber un profond sommeil sur le premier Adam. Le Seigneur est le premier anesthésiste de tous les temps. Et croyez-moi, le sommeil a été profond parce que l'opération a été délicate et ce n'était pas rien. Dieu, moi je crois les choses comme elles sont écrites, a dû ouvrir le côté d'Adam, il a pris une côte, il valait mieux qu'il soit bien anesthésié, et avec cette côte, il a fait une femme. Et quand le premier Adam a vu la femme arriver, il a dit, voici celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. C'était pas une pièce rapportée, c'était pas quelqu'un fabriqué, pardonnez-moi, mais le texte hébreu dit bâti. Dieu a bâti une femme. J'aime ce mot-là. Ça a été une construction. Dieu a bâti Ève. Quand Adam l'a vue, il a dit, voici celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. Mais c'était évident, elle était tirée de lui. Au chapitre 1er de la Genèse, Dieu dit au couple, Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Mais Ève n'est créée qu'au chapitre 2. Et là, nous sommes au chapitre 1er, c'est-à-dire que Dieu est en train de voir Ève en Adam.
Oui, amen.
Elle existe par lui. Elle existe de lui. Et elle existe pour lui. Il faut donc qu'elle soit eau de ses eaux et chair de sa chair. Nous faisons un tout petit bond de plusieurs siècles et nous arrivons au deuxième Adam, Christ. Pour l'instant, dans le plan de la rédemption, il est seul. Seul à fouler au pressoir, seul à Gethsémané, seul sur la croix. Et si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais vous dire ceci. Dans le plan initial de la Trinité, l'Église était prévue. Alors Dieu va faire quelque chose, il va faire tomber un profond sommeil sur le deuxième Adam. La mort de la croix. Il n'y a pas de sommeil pire que celui-là. Parce que pour que nous ne connaissions pas l'enfer, je vais vous le dire, j'espère que vous serez d'accord avec moi, Jésus a connu l'enfer. Parce que la mort éternelle, c'est d'être séparé de Dieu. Et Jésus l'a été. Jésus l'a été. Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est le cri de l'enfer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est en train de connaître la mort physique et la seconde mort. Non pas comme condamnation pour ses péchés, il est pur, mais pour les nôtres. Dieu est en train de plonger le deuxième Adam dans le sommeil de la mort. Et là, il va faire une opération extraordinaire. Il va faire une femme. L'épouse de Christ, la femme de l'agneau, l'Église, elle est vue dans la croix, elle est vue par Jésus, elle va vivre de Jésus, elle va vivre par Jésus et elle va vivre pour lui. Et Christ va voir ça. Quand la multitude des rachetés va s'approcher de son trône, ça va être quelque chose. Les milliards d'anges vont faire de la place. Et l'Église va paraître devant l'agneau. Et il va dire, voici celle qui est haute de mes os et chair de ma chair. Elle est sortie de mes souffrances à la croix. Elle est sortie de mon sacrifice. Elle est sortie de ma mort. Alors vous pensez bien que moi je ne suis pas venu pour vous dire vous avez une petite vie chrétienne au ras des pâquerettes, mais Dieu est un Dieu d'amour. Tout va bien. Je suis en train de vous dire l'Église c'est ça et c'est rien d'autre que ça. Il faut que tu sois eau de ses eaux et chair de sa chair. Au fond, il faut que tu sois fait en Jésus, il faut que tu sois du Jésus. Ève était du Adam, était fait d'Adam. C'est aussi simple que ça. Et un jour, j'ai réfléchi, et le Saint-Esprit m'a amené à considérer le prix que la rédemption, que la Trinité a payé pour notre rédemption. Et je dois vous avouer que depuis ce moment-là, je ne suis plus jamais le même quand je pense à tout ça. Sais-tu que ton salut a coûté une amputation dans la Trinité? Pour la rédemption, la Trinité ne sera plus jamais la même pour l'éternité. C'est que Christ a dû devenir un homme et il est remonté là-haut avec un corps glorifié. Et il y aura pour l'éternité dans ce corps, alors que Dieu est esprit, les marques de l'amour de Jésus pour ta vie, pour l'éternité. Ils verront celui qu'ils ont percé. Le prix a coûté très très cher. Et je me dis, mais comment pouvons-nous le dimanche matin être aussi léger, pardonnez-moi, aussi minable au moment de la Sainte Cène? C'est pitoyable la manière dont le peuple de Dieu aujourd'hui prend la Sainte Cène. J'espère que vous vous souviendrez de cela demain matin. Tu m'as aimé, Seigneur, au point que tu as pris un corps. La Trinité n'est plus la même et elle ne sera plus jamais la même pour l'éternité. Mangeant et buvant, et ils viennent dire, nous sommes tes os et ta chair. Voilà les gens qui ont l'intelligence des temps. Ils acceptent d'être la chair et le sang de Christ. Je vais passer vite sur le verset 2. Ils disent, autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. L'intelligence des temps les amène au souvenir bien présent de tout ce que David avait été, de tout ce qu'il avait fait pour eux, alors qu'un roi mauvais et rejeté régnait. Mais ils avaient quand même le souvenir que dans cette période difficile, c'était David qui combattait pour eux et qui leur avait donné la victoire. Il est très important de considérer cela parce que l'intelligence des temps va nous amener à nous souvenir de tout ce que Jésus a été, de tout ce qu'il est pour nous dans le temps présent. Notre berger, notre conseiller, notre directeur, notre commandant en chef, notre médecin, notre consolateur, enfin il est tout. Et l'intelligence des temps va m'amener à considérer Jésus comme ça. Si Jésus est tout cela pour nous, alors nous allons nous préparer pour un temps plus glorieux. Ils se sont dit, mais David, alors qu'il y avait Saül encore, David était capable de faire tout ça pour nous, alors maintenant qu'il va être roi, notre roi, ça va être formidable. Ça doit nous pousser de l'avant. Et enfin, il est dit, ils ont dit à David, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. C'est l'Éternel ton Dieu qui l'a dit. Je termine avec ça, il aurait fallu une réunion là-dessus, et on ne l'aura pas. Je voudrais vous dire tout de suite qu'il en aurait fallu 5 autres. Hein. Mais simplement, vous donnez ça. C'est par la parole de Dieu qu'ils ont eu l'intelligence des temps.
Amen.
Parce qu'ils se sont souvenus de ce que Dieu avait dit concernant David. Alors nous n'aurons pas le temps de parler de ça. Mais Dieu avait parlé de ce temps-là et ils ont compris par l'action surnaturelle de Dieu dans leur vie que ce temps était arrivé. Ils entraient maintenant dans l'intelligence des temps par la parole du Seigneur. Je fais donc le résumé de ce que j'ai dit ce soir. À Hébron, des hommes de guerre dont le cœur est tout entier au Seigneur, partageant la mort avec leur roi, se nourrissant de lui, vivant de lui, et se souvenant de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait été, parce qu'ils se sont laissés éclairer par la parole de Dieu. Que ce soit ta vie, que ce soit ma vie, et autant vous le dire, pour que ce soit clair, Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est à prendre ou à laisser, mais nous prenons. Parce que ça vaut la peine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous recueillir quelques instants encore en sa présence.